Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà. Donc, je vous avais annoncé Matthieu chapitre 22, verset 1er. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors voilà pour cette lecture qui nous situe dans cette image vivante, pourrait-on dire. Et ça, ce sont les paraboles, c'est propre finalement au monde de l'Orient. Hein, on parle avec beaucoup d'images pour faire comprendre des choses, des vérités. Et c'est ce que Jésus, certainement dans ce qu'il se proposait d'enseigner, il le faisait très très souvent avec des allégories, des paraboles. Donc, Jésus va comparer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et il dira ceci, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alors imaginez-vous l'événement, parce que quand il y a ce genre de festivité, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de conséquent, et un roi qui marie son fils, ce n'est pas rien, surtout si c'est le prétendant, le successeur au trône. Alors on peut s'imaginer les choses de cette manière. Vous savez que Jésus a fait différentes comparaisons comme cela. Et pour enseigner les gens de la campagne, il a parlé finalement dans des images très touchantes qui pouvaient sensibiliser les agriculteurs, les laboureurs, les gens qui faisaient de leur vie le métier de la terre. Alors il a parlé de l'ivraie, il a parlé du semeur, il a parlé du grain, il a parlé du levain, et puis il a également enseigné sous d'autres formes, la pêche miraculeuse pour ceux qui avaient pour état de pêcher des poissons pour nourrir les autres naturellement. Et puis pour ceux qui étaient en recherche, il a parlé du trésor caché, de la perle de grand prix, et puis toutes sortes de choses semblables. Alors, ça, c'était les manières, les façons de faire, de l'Orient, mais particulièrement de façon de faire d'enseigner de Jésus. Alors, le thème qui nous entretient ce soir, c'est tout simplement quelque chose qui est agréable. Il s'agit de la fête, particulièrement des noces, des réjouissances, où il est question du bonheur, de se réjouir, d'être heureux en quelque sorte. Et nous voyons que Jésus va présenter une grande vérité de la Bible, qui est la principale, nous pourrions dire, le salut de l'âme, l'invitation au salut présentée sous la forme d'une fête. Alors ça c'est quelque chose parce que On sait très bien que les hommes de tous les temps sont sensibles à la fête, à la réjouissance. C'est quand même beaucoup plus engageant que lorsque nous sommes conviés à, par tout simplement civilité, eh bien à un enterrement ou autre chose comme ça. Donc, le royaume de Dieu présenté sous la forme d'une noce, ça devrait enthousiasmer tout le monde. Alors, ça aurait dû enthousiasmer les contemporains de Jésus. Mais on s'aperçoit que Jésus n'a pas voulu mettre l'accent sur la tristesse du ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de tristesse. Voilà, ça c'est la terre qui nous parle de tristesse avec ce que nous connaissons d'une manière ou d'une autre, mais au ciel, c'est toujours la forme, c'est toujours la fête. Alors, c'est dans cette direction que nous allons étudier un petit peu, parler de cette parabole. D'abord, pour décoder, il y a question d'un roi. Le roi est tout simplement présenté comme Dieu, voilà, le Dieu des cieux. Et puis, il est question donc du fils. Ce fils royal, c'est le fils de Dieu, c'est le fils du roi qui n'est autre que Jésus, celui qui est envoyé. Parce que, c'est pour réjouir les hommes, dans un monde de tristesse et dans un monde de mort. Et puis, il est question de l'épouse et les invités. Alors, on sait que dans la Bible, l'épouse, c'est l'image de l'Église. Mais l'image de l'Église que quand elle a répondu, naturellement. L'Église et les invités, ce sont tous ceux qui s'adressent, finalement, à qui est adressée l'invitation, sous le thème de convive. Alors, si nous poursuivons, il est dit que ce roi envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. On le sait très bien, quand il y a un projet de mariage, et puis que les choses arrivent, quelques semaines ou quelques mois auparavant, on reçoit un faire-part. Alors, c'est peut-être un faire-part pour le service, la cérémonie, et puis peut-être pour le vin d'honneur. C'est comme ça que ça se passe dans nos pays occidentaux. Mais, si vous êtes un proche, vous avez certainement le privilège de pouvoir être invité à toute la noce, c'est-à-dire au repas, peut-être le midi, s'il y a un dîner, le soir, vous êtes invité toute la journée. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réduit chez nous, parce que en Orient, du temps de Jésus et dans cette période très éloignée de nous, ça durait 8 jours. Imaginez-vous, 8 jours de congé, vous vous rendez compte, c'est formidable. C'est sensationnel. Alors bon, on n'en est plus là aujourd'hui, parce que je vais vous dire une chose, ça coûte cher. Voilà, mais bon, passons tout cela. Il envoya donc ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ces serviteurs, disons quelques mots, ce sont des agents du roi, des ambassadeurs, des gens de dignité, nous pourrions dire, et qui vont aller de par tout le royaume et qui vont adresser finalement l'invitation. Ce sont, nous pourrions résumer, les porteurs de bonnes nouvelles. Ouais, porteurs de bonnes nouvelles. Et on sait très bien que Dieu a toujours appelé les hommes depuis les temps immémoriaux. Il a commencé à les appeler à travers des hommes particulièrement choisis. Moi, je pense à des gens comme Abraham, des gens comme Moïse, comme tous les prophètes qui sont apparus, les prophètes de l'Ancien Testament, et pendant des siècles et des siècles, ce roi du ciel, ce roi de la parabole, pour le remettre dans l'image, n'a jamais cessé, selon un terme de la Bible, dès le matin d'appeler les hommes, finalement, à venir à lui, à penser à lui, à le prier, à l'adorer, à le servir, à lui obéir et à l'aimer. Donc ça, c'est un message de bonne nouvelle. Alors que l'on sait que, quelque part, instinctivement, l'homme a quelque part comme une sorte de peur et de crainte, voire même de répulsion de Dieu. Et Dieu dit, mais venez à moi, je ne suis pas là pour vous faire du mal, je suis là pour vous bénir, dans la mesure où vous voulez bien sûr recevoir la bénédiction. Alors les choses sont présentées de cette manière. Et puis, par la suite, nous lisons ceci, nous avons cela devant les yeux, ceux qui étaient invités aux noces, c'est-à-dire les premiers convives. Il y en a eu à travers tous les siècles. Il y a eu des invitations. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous constaterez que combien de fois Dieu a chargé sa parole, les prophètes, pour dire, et particulièrement la nation d'Israël, de se rapprocher de Dieu. Et c'est vrai que c'était le peuple élu. Les premiers qui ont entendu cet appel, Eh bien, c'était Israël. Le peuple choisi, le peuple élu. Mais constatation est faite à la suite de notre lecture, puisqu'il nous est dit « Mais ils ne voulurent pas venir ». Quelle histoire étrange! Quelquefois, lorsque nous sommes dans l'obligation de refuser une invitation à une fête, aux noces, on a certainement de bonnes raisons. Soit des raisons de maladie, des raisons d'éloignement, parce que bon, on est peut-être au bout du monde, hein, ou on donne quand même des raisons valables. Hein, mais vous allez voir que dans les réponses qui sont données, ce sont des comportements honteux et irrespectueux, irrévérencieux. Et c'est bien ce que les hommes font, hein, quand on leur parle de Dieu, la proposition de Jésus-Christ à son salut, la proposition de l'évangile ou de la Bible, souvent les gens sont irrespectueux. Et on va le découvrir. Mais ils ne voulurent pas venir. Il y a là un refus obstiné. Vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils vont entendre le nom de Jésus, il va y avoir une correspondance. Ils vont se sentir interpellés. Et il y en a d'autres, ils vont rester hermétiques. Au contraire, ils vont avoir comme une répulsion en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais là, en tous les cas, eh bien, il est question d'un refus obstiné d'Israël qui aurait dû marcher avec son Dieu, qui lui avait tant béni, tant accompagné, lui ayant donné une pluie de miracles dans toute son histoire, mais qui va rester obtus, obstiné, à obéir à l'invitation au bonheur. Il y a un beau texte dans le livre de Deutéronome, c'est Dieu qui parle, par la bouche de Moïse, où Dieu dira, mais finalement, eh bien, si tu te convertis, je te bénirai. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Choisis la vie et non la mort. Choisis de venir à moi et je te donnerai, eh bien, finalement, tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu peux attendre en tant que créature sur cette terre, parce que Dieu sait très bien que nous avons une infinité de besoins qu'il est prêt à satisfaire. Mais choisis la vie. Choisis le bien. Refuse le mal. Alors, à ce moment-là, eh bien, il y aura une bénédiction sur ta vie. Mais tout a été répondu du temps de Israël dans l'ancienne alliance, par des révoltes multipliées, par l'éviction de Dieu comme seul chef, seul seigneur et seul roi d'Israël. Et ils se sont donné des rois qui ont été véritablement des rois profondément impies. Et puis, au lieu d'adorer leur seul Dieu, comme le dit le premier des 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », eh bien, ils se sont tournés, les Juifs se sont tournés vers l'idolâtrie, complète et totale, jusqu'à se faire un veau d'or et puis toutes sortes de choses. Et puis je crois que le pire, enfin, où ils ont mis le comble à leur péché et à leur refus obstiné d'entendre le message de l'Évangile, c'est que lorsqu'ils ont crié un beau jour, qui nous est rapporté dans l'Évangile, « Crucifie, crucifie, crucifie-le ». Ça, c'était véritablement le comble de l'aberration, de la folie, de l'aveuglement, de la haine contre Dieu. Donc la condamnation de Jésus. Alors, malgré l'affront du refus, nous voyons que le roi va patienter et va être persévérant. Dites-moi, depuis tous ces siècles qui sont passés, Dieu n'a jamais abdiqué de sauver les hommes. Il y a eu des siècles et des siècles qui sont écoulés. Et encore jusqu'à nous, eh bien, nous sommes encore dans les temps de la grâce. Dans les temps où la faveur de Dieu est offerte au monde entier, et plus que jamais parce que nous avançons vers la fin de cette civilisation, de cette société, de cette humanité, nous le savons, la Bible nous le prévient à travers le livre de l'Apocalypse, mais Dieu use de patience, et il persévère, cherchant qui voudra répondre à son appel et participer aux noces. Alors il envoya d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces !» C'est une supplication en quelque sorte. Alors ça se fait à la manière de l'Antiquité, naturellement, hein, mais il y a quelque chose quand même qui est à retenir quand il y a cet assistant, j'ai préparé et tout est prêt. Alors c'est vrai que peut-être dans l'ancienne alliance, il y avait encore des choses à venir, mais aujourd'hui dans ce message de la parole de l'Évangile du Nouveau Testament, les choses sont faites puisque on sait très bien que Jésus a prononcé ce qu'il fallait. Et il a accompli ce qu'il fallait. Alors, encore le souligner ce soir, Dieu ne se lasse pas d'appeler les hommes. le temps, les circonstances et sa parole. D'une manière ou d'une autre, le fond est toujours le même. Venez à Christ, croyez en Christ, repentez-vous. Choisissez maintenant le bien. Choisissez la vérité, la vie, la justice. Ça, à travers tous les temps, à travers les circonstances, Dieu parle. Et il saura également nous interpeller au moment où nous serons le plus favorablement disposés à écouter. Et il faut bien reconnaître que dans la plupart des cas, eh bien, le Seigneur vient souvent nous chercher dans notre souffrance et dans notre misère pour nous parler, parce que tant que nous allions bien, nous étions tellement pris par toutes sortes de choses étrangères que on n'était pas favorable ou même disposé à lui répondre. Alors, sa parole aussi. Vous savez que nous sommes dans un monde où nous allons bientôt atteindre le paroxysme de l'évangélisation et de la traduction de la Bible. Aujourd'hui, la Bible doit être traduite à peu près en 1800-1900 langues. Et d'ici à peu près une trentaine d'années, eh bien même tous les dialectes de la terre seront traduits. Enfin, en tous les cas, le Nouveau Testament. Alors, la parole, elle passe d'une manière ou d'une autre. Elle passe par des prédicateurs, mais elle passe par la télévision, la radio, l'Internet. Et pour dire, eh bien voilà, tout est prêt. Venez maintenant aux noces. Encore d'autres serviteurs sont appelés à la rescousse. C'est une succession d'envoyés qui ont parcouru finalement Israël et des hommes, des prophètes, des hommes de foi et tout cela. Tout est prêt, venez aux noces. Non seulement l'idée d'invitation, mais il y a une incitation à venir parce que j'ai préparé. On ne va pas à quelque chose que l'on sait qui ne sera pas finalement bien organisé. Mais là, Dieu est créateur, mais il est le grand organisateur de notre salut et du salut du monde entier et de l'humanité, parce que les choses sont faites. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu, finalement, devant la catastrophe de l'humanité, devant le mal qui sévit partout, il n'est pas pris. Et nous voyons que il dit « mais j'ai préparé ». C'est une intervention personnelle de Dieu à l'élaboration, finalement, eh bien de notre bonheur, qui passe par l'acceptation de Jésus pour notre salut. Dieu a mis tout en œuvre, je le répète, pour sauver les hommes, et il n'y a aucune négligence. Vous avez remarqué que dans une noce, on essaie de mettre les petits plats dans les grands. C'est ce que l'on dit, non? Voilà. Donc, tout est fait avec beaucoup de soin, beaucoup de minutie, parce qu'on veut honorer les mariés. Les fleurs, la musique, enfin, toutes sortes de choses. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. Nous pouvons nous imaginer la préparation du royaume de Dieu, où il ne manque rien. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucune imperfection, parce que, eh bien, c'est Dieu qui l'a préparé. Aucune négligence. Donc le salut est prêt, mais rien à faire, bien qu'il soit totalement gratuit, nous annonce aussi l'Évangile. Il est rare quand même, quand on est invité à une noce et qu'il y ait une caisse juste avant le repas pour vous dire « ben vous allez payer votre part ». Bon, là c'est quand même un défaut d'organisation. Enfin, si on est prévenu à l'avance et que si c'est pour aider, on veut bien, hein. Si c'est véritablement une famille déshéritée, on veut bien. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est offert. Voilà. De ce côté-là, c'est fait. Donc, c'est gratuit. Et il n'y a qu'une chose à faire. Oh, une chose si facile. Parce que le jour du mariage, il y a un mot très court. Un mot très, très court. O-U-I. C'est oui. Voilà. Normalement, quand c'est non le matin à la mairie, il n'y a plus la fête après. C'est plus la peine, tout le monde rentre chez soi. Mais c'est le oui, c'est vraiment le jour du oui. Le oui devant les autorités, le oui devant Dieu à la prière de bénédiction et d'engagement. Et puis c'est un oui pour tout le reste, naturellement. Donc, il s'agit d'accepter. Et quand on accepte quelque chose, quand on accepte un contrat, qu'est-ce que l'on fait? On n'a pas besoin de faire un grand discours, on dit oui tout simplement. Alors, on répond tout simplement à ce que Jésus a déjà préparé, puisqu'il le dit, tout est accompli. Oui Seigneur, tout est accompli, et je sais que c'est pour moi, alors je l'accepte. Parce que c'est bien marqué en lettres de feu dans notre Bible, et c'est l'apôtre Paul qui un jour avait répondu oui, il avait répondu oui, et il dira ceci, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est un don de Dieu, tout simplement. Vous n'avez aucun mérite. Et vous savez, on ne mérite pas pour aller à un mariage. On ne va pas être invité, enfin, à moins d'avoir des idées vraiment tout à fait particulières pour celui qui invite, mais on est invité parce qu'on fait partie de la famille. On fait partie des amis, on est proche, on connaît bien. Alors, c'est une grâce et on le reçoit comme un privilège. Je suis content d'aller à la noce. Hein, c'est vrai. Et qu'est-ce que l'on fait souvent le soir quand on se sépare, quand on a les moyens encore, en fin de soirée, eh bien on va remercier les mariés, on va remercier ceux qui nous ont invités. Hein. Voilà, nous avons passé une bonne journée et nous sommes heureux d'avoir partagé votre joie et votre bonheur. Donc, les choses sont présentées de cette manière naturellement. Le verset 5 à 6 nous montre un comportement d'indifférence, ouais, chez les hommes. Et un comportement qui ne va pas rester seulement dans l'indifférence, mais qui va aller plus loin, il va devenir, eh bien là, odieux même, et enfin criminel. On va lire cela, et de la part des invités. « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. » Vous rendez compte, un mariage qui finit par un... C'est terrible, hein ? Mais c'est vrai que c'est exagéré. Ça nous semble exagéré dans l'image que Jésus nous prend. Mais il ne faut pas oublier que c'est la triste réalité du comportement humain, du comportement de cette humanité créature de Dieu, création de Dieu, à l'égard, finalement, eh bien, du roi des cieux, de celui qui est créateur, qui est sauveur, auquel, eh bien, on n'a pas eu une attitude différente de ce qui nous est préparé, de ce qui nous est présenté. Ils ne se sont pas inquiétés. C'est-à-dire que ils ont, ça, c'est une attitude de mépris. Alors, ils sont partis, à ici ou là, et à la fin, eh bien, il y a eu une exaspération chez les invités. À tel point qu'ils ont outragé. Et vous savez, le mot outrage, c'est quelque chose de très grave, c'est gravissime. Hein. Et ensuite, ils les ont tués, les serviteurs, sans s'inquiéter. Indifférence et mépris, donc les raisons. Parce qu'on a toujours des raisons qui sont des prétextes, qui sont des excuses, mais qui ne tiennent pas. Parce que quand on est proposé au bonheur, à la bénédiction, à la vie pour l'éternité, qu'est-ce que l'on peut invoquer ? Seigneur, je suis trop occupé. Seigneur, j'ai trop d'affaires. Il y a ceci, il y a cela, je ne peux pas. Et celui-ci a son champ. Ce qui montre bien que dans le descriptif que nous fait Jésus, le diagnostic du cœur de l'homme que Jésus fait, c'est que les hommes sont absorbés par des intérêts terrestres et matériels. Voilà. Le travail. J'allais vous dire, c'est la santé. Non. Le travail. Les gens pour toujours davantage s'occuper parce que finalement rester inactif, ce qui n'est pas bon non plus, hein, parce que l'oisiveté c'est pas bon. Mais une chose qui est certaine, c'est que il faut se précipiter dans toutes sortes de choses pour ne pas réfléchir à l'essentiel et à ce qui demeurera jamais. Donc on se noie, on se perd. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et le trafic nous parle finalement de commerce, d'échanges, de relations avec une idole, l'idole de la vie des hommes, c'est l'argent, Dieu, richesse, mammon. Alors pour ça, eh bien, on est prêt à sacrifier Dieu. Alors que finalement, eh bien, quand on est arrivé sur terre, on n'avait rien, et quand on va repartir, on n'aura rien non plus. Et ça, c'est une évidence. On pourra toujours saisir la problématique d'une manière ou d'une autre, on en arrivera toujours à la même chose. Je viens avec rien, je pars avec rien. Mais par contre, dans cet espace que l'on appelle la vie, alors il faut la remplir, à craquer cette vie, quitte à nous-mêmes, eh bien, en mourir. Donc ça, ce sont des prétextes, des excuses. Mais plus grave encore, nous l'avons dit, la haine, la jalousie, les préjugés, le crime passionnel. Vous savez qu'il y avait un homme, un grand homme de Dieu qui s'appelait Élie, qui était lui un homme qui criait aussi, vous comprenez ? Il criait dans les déserts pour dire à Israël, revenez à votre Dieu. Et puis, il n'a pas toujours eu du succès, pourtant c'était un homme qui a vu le miracle de Dieu, qui a fait le miracle de Dieu d'une manière, enfin, il n'y a pas de qualificatif, parce que c'est un des plus grands prophètes d'Israël, Élie, mais à un moment donné, il va se retrouver vraiment tout seul, contre un peuple qui ne veut pas entendre parler de son Dieu, qui ne veut rien entendre. Et il fera cette prière à l'égard de Dieu, Vers le ciel, il dira, « Mais Seigneur, j'ai déployé mon zèle. Pour toi, Éternel, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. » Et le pauvre Élie, il disait, « Mais moi, je suis resté tout seul. Tout seul. » Vous savez, l'église militante, l'église combattante, on se sent vraiment seul dans un monde, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. À travers tout ce que l'on peut déployer pour essayer de venir au secours des hommes, de leur parler, de les réconforter, de leur donner une espérance. Ouais, mais c'est ça, nous sommes aussi des envoyés du roi. Et puis, qui nous entend, qui veut nous entendre? Et ça a été une suite à travers toute l'histoire. À commencer dans le Nouveau Testament par le martyr d'Étienne. Pierre aurait été aussi mis à mort, Paul, et puis à travers tous les siècles dans notre monde, les bûchers ont allumé des feux un peu partout, et également Jésus, naturellement, le premier de tous. Alors le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla la ville. Alors, ça c'est, on reste toujours dans le contexte de l'Ancien Testament. Jésus parle à des hommes qui sont de son temps, de son époque, qui connaissent l'histoire d'Israël, qui refusent le Messie Sauveur, et il leur dit, bien voilà, c'est l'image, c'est l'image, c'est l'histoire. C'était un châtiment propre à Israël, parce que ce que Jésus a dit, non pas par vengeance divine, mais conséquence de toute cette impudence, de tous ces outrages, de tous ces actes criminels qu'Israël a perpétrés contre les envoyés de Dieu pendant des siècles et des siècles, eh bien cela nous parle d'une manière très claire, et c'est vérifiable par l'histoire, quand Jésus a dit ces paroles, quelque temps, disons 40 ans après, en l'an 70, c'est exactement ce qui s'est passé, Jérusalem a été détruite par les armées romaines, brûlée de fond en comble. Il a fait périr les meurtriers, il a brûlé la ville. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Et ça a été la dispersion et l'extermination des Juifs jusque dans le siècle dernier, où 6 millions d'hommes ont été finalement, exterminés par les hordes nazies. C'était terrible. 19 siècles de persécution. La folie de la haine. Oui, la folie de la haine. C'est terrible. Parce qu'ils avaient prononcé sur le crime, demandant la mort de Jésus, cette parole, que son sang, que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce qui est arrivé. C'est terrible. On ne doit pas être antisémite. On en parle tous les jours, Quelle est cette haine essentielle et fondamentale contre les Juifs, et quelquefois les chrétiens contre les Juifs, les chrétiens, tradition, s'entend par là, c'est parce qu'on ne pardonne pas aux Juifs, finalement, d'avoir crucifié Jésus. Et pendant des siècles et des siècles, il y a eu des choses abominables contre les Juifs. Mais c'est l'histoire, tout simplement. Alors il dit à ses serviteurs, le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, car ses serviteurs et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Les premiers invités Israël ne sont pas rentrés parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. Quelques-uns, naturellement, mais ça n'a pas été la majorité. Pourtant, Israël était bien préparé pour répondre à l'invitation. Mais ils n'ont pas voulu. Et là, il semblerait que c'est un nouveau monde qui rentre, qui va accepter la proposition du roi, qui va pouvoir bénéficier finalement de l'invitation et des noces. Nous voyons que, et nous constatons que le roi se détourne des premiers invités, donc entendez par là Israël, pour solliciter cette fois une autre catégorie d'individus, et ces individus, là, c'est ce que nous sommes nous aujourd'hui. Depuis 20 siècles, depuis le message de l'évangile, depuis la résurrection de Jésus, donc depuis 2000 ans, nous faisons partie de ces nouveaux invités. Israël n'en a pas voulu et nous avons vu les conséquences. Maintenant, nous, qui sommes devenus, ou le monde qui est devenu un monde chrétien, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que on peut toujours juger les Juifs. Mais nous, qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est ça la question, et c'est intéressant d'y répondre. Israël, je le répète, a refusé le salut de Dieu. Dieu, maintenant, offre désormais sa grâce à tous les hommes, sans distinction aucune. C'est ce que Jésus est venu annoncer, finalement, dans son temps, que le salut allait devenir universel. À travers cette parole extraordinaire, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé Israël, mais Dieu a tant aimé le monde maintenant qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est pas seulement Israël, mais que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère de l'universalité du salut. Quiconque, tous ceux qui entendent l'appel, l'invitation. L'ère du salut est ouverte et Jésus donnera ses paroles testamentaires dans l'évangile de Marc, quand il enverra aussi lui ses cohortes de serviteurs, que l'on appelle les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Il dira, mais allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'était plus seulement Israël, mais le monde entier. Et permettez-moi de dire que depuis 20 siècles, et particulièrement depuis le 19e siècle, les missions évangéliques, les missions protestantes, les missions de apportant le message de Christ, sont allés dans le monde entier. Ouais. Sur tous les continents pour dire, mais Jésus est ressuscité, croyez en Jésus. Venez, entrez, réjouissez-vous parce que les noces, eh bien, sont là. Allez par tout le monde. Donc, ses serviteurs, les apôtres, les disciples, la prédication de l'évangile a traversé les temps, a traversé les continents. Alors, les carrefours et les chemins image la terre entière où l'évangile est proclamé. Voilà. C'est ça les chemins. C'est ça les carrefours dont il nous est parlé. Pour atteindre tous les peuples. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent et la salle des noces fut pleine. Contrairement aux Juifs, les païens, les nations ont répondu à l'invitation en nombre. Eh oui. On ne peut pas s'imaginer ce que nous pouvons représenter ce que peuvent représenter 20 siècles d'évangélisation dans le monde. C'est quelque chose de considérable. C'est pas une nation, c'est pas un peuple, c'est le monde entier qui a été mis au bénéfice finalement de cette annonce. Alors, ces hommes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, ces nations barbares à travers les siècles, dont nous sommes originaires. Parce que nous ne sommes pas juifs. Alors ils ont entendu et ils ont cru. Et dans ces carrefours, dans ces chemins, par tous les chemins de la terre, comme Jésus a pu le rencontrer dans son propre pays, dans sa nation, c'était particulièrement les pécheurs notoires, les gens de mauvaise vie, tous ceux qui, finalement, eh bien, avait une vie qui était très éloignée de la volonté et de la pensée de Dieu, eh bien, ils ont été beaucoup plus favorables que tous ces gens qui étaient là d'appartenance religieuse, se réclamant d'une religion, d'une bonne conscience, d'une bonne morale et tout cela, des gens de bien, qui ont méprisé et qui continuent encore à mépriser le message tout simple de l'Évangile, ne le trouvant pas peut-être à leur goût. Alors, tout cela image finalement, eh bien, cette christianisation. Mais dans cette christianisation de notre monde, dans cette universalité du salut, il y a des vrais, il y a des faux. Comme à chaque fois, comme il y avait des vrais juifs et comme il y avait des faux. Et les vrais, les faux, les vrais se sont toujours caractérisés par trois choses. Une véritable repentance à l'écoute de l'Évangile. Avec une conversion à Jésus-Christ, pas à une église, et pas à une religion. Et puis avec également une nouvelle naissance, une repentance sincère, la foi au fond de leur cœur, alors que les faux, ayant entendu le même message d'invitation à rentrer dans le repas, au repas des noces, eh bien, se sont caractérisés par un manteau d'apparence et d'hypocrisie. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi il y a la suite. Les derniers, Les dernières phrases et derniers versets nous montrent qu'il ne suffit pas seulement d'accepter l'invitation pour être admis définitivement aux noces, il faut autre chose. Je vous ai parlé des vrais et des faux. Comment faire le distinguo entre les vrais et les faux? C'est le verset 11 et 12 qui nous dit ça. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, parce que tout le monde était rentré, et les noces battaient leur plein. Alors donc, ils étaient à table, et là, à ce moment-là, le roi aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mais mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Voilà, imaginez-vous un peu la scène. Vous voyez quelqu'un qui se trouve là, et qui est au milieu des convives authentiquement appelés, qui ont authentiquement répondu de tout cœur, et là vous voyez quelqu'un qui arrive aux noces, avec un vêtement, un bleu de travail. Aller aux noces en bleu de travail, remarquez, vous savez, on a tout vu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous arrivez, vous dites voilà, je viens aux noces, il y a du cambouis, je me suis pas lavé les mains, je me suis pas fait les ongles, et tout ça comme ça, vous avez les cheveux, qui éclate dans tous les sens. Le roi, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Et vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde comment tu es habillé. Écoute, quand on vient aux noces, on vient d'une manière décente. On est propre. Voilà. Hein? Au moins, le minimum. Cette situation et cette constatation du fait que cet homme soit rentré parmi les autres, qui ont fait preuve d'authenticité, profession, de foi, où il n'y a rien à dire, eh bien, cela suppose une première chose. Tout d'abord, c'est que tous ces gens qui ont été, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais ramassés sur les chemins, devaient être très pauvres, donc pas d'habits de noces dignes de la cour du roi. Surtout quand vous êtes invité à la garden party du 14 juillet à l'Élysée. Vous n'avez pas intérêt de venir. Voilà, vaut mieux quand même s'habiller. Hein. C'est un conseil que je donne si vous y êtes pour l'année prochaine. Là, cette année, c'est fait. Hein, c'est pas la peine d'espérer, c'est terminé. Bon, il devait être très pauvre, mais est-ce que Dieu n'est pas venu nous sauver parce que nous étions très pauvres? Très pauvre moralement. Alors, très pauvre spirituellement, alors là, on était en dessous. Hein. Mais il est venu nous chercher parce que nous étions vraiment des pauvres et perdus. Et il y a quelque chose qui va faire le distinguo. C'est que parce qu'ils sont très pauvres, tous ces gens qui ont été ramassés de droite et de gauche, parmi tous les temps, dans tous les siècles, parmi toutes les nations, c'est qu'il y avait quelque chose, il y avait un usage, et Jésus en fait référence, un usage particulier en Orient, qui veut que quand un grand personnage, un roi, un monarque, eh bien invite, il offre à ses convives un vêtement de fête. Voilà, c'est-à-dire que vous venez tel que vous êtes, et quand vous allez rentrer dans la salle des noces, il y a un vestiaire. Vous allez déposer vos oripeaux, et à ce moment-là, on va vous donner un bel habit. Chouette. Ça me coûtera rien. Parce que je voudrais vous dire, c'est gratuit. Le salut est gratuit. Vous savez, non? Non, non, vous n'avez pas l'air de le savoir. Je vous dis qu'il est gratuit. Voilà. Alors profitez-en. C'est comme ça que ça se passait. Voilà. Et on ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec toute notre noirceur, avec toutes les choses qui sont mauvaises, toutes sortes de choses au niveau de nos pensées, de nos sentiments et de tout notre caractère et tempérament. C'est pas possible. Puisque il vous est donné un vêtement, c'est à vous de le prendre. Mesdames, il y a du choix. Comprenez? Vous aurez pas toute la même robe. Vous savez, c'est tellement différent. Hein? Et puis nous, c'est pareil pour les messieurs, les cravates, vous verrez, c'est formidable. C'est extraordinaire. Il en est de même du salut de Dieu, tout simplement. Dieu nous invite à recevoir sa grâce. Ça s'appelle la grâce, ça, le vêtement. Ça s'appelle la grâce. Et l'accepter, cette grâce, accepter ce vêtement, c'est honorer le roi. La refuser, c'est se condamner soi-même. C'est pas Dieu qui nous condamne. C'est nous-mêmes qui nous condamnons parce que nous ne voulons pas revêtir un habit de noces. Nous ne voulons pas revêtir quelque chose de nouveau. Mais pour être admis dans le royaume de Dieu, il nous faut revêtir un habit qui est celui qui nous est proposé. Pas celui de notre goût, non, c'est celui que Dieu a bien préparé. C'est l'image tout simplement de la transformation intérieure. Un habit en principe fait pour l'extérieur, hein, comme ça. Voilà, c'est fait pour l'extérieur, pour que nous puissions être propres et beaux, naturellement. Mais là, il est question de ce vêtement, c'est au fond de nous-mêmes. C'est un changement de pensée, un changement de mentalité. C'est un cœur nouveau. On dira peut-être pour généraliser, eh bien c'est une vie nouvelle. Voilà, c'est ça le vêtement, hein, tout simplement. Cet habit nous est offert gracieusement. Et à partir du moment où on commence à revêtir cet habit, eh bien, on lui a donné un nom, c'est la nouvelle naissance. Vous savez, comme certains insectes, quand ils passent par la mue, hein, de chenille, je suis devenu un papillon, imaginez-vous, c'est bien, hein. J'ai déposé cette chrysalide, cette gangue, dans laquelle j'étais serré, enfermé, et je croyais que c'était la vie. Alors que finalement, je connaissais pas autre chose, puisque je ne savais pas. Mais à partir du moment où on m'a présenté un beau costume, à l'intérieur de moi-même, on m'a dit, bien, tu sais, c'est pour ça que tu as été créé. C'est pour que tu sois une nouvelle créature. Et je suis né de nouveau, alors ça change tout à ce moment-là. Et avant de revêtir une nouvelle nature, il faut par avant quitter ces oripeaux de misère. Et faut vouloir dire, eh bien, Seigneur, maintenant, je veux plus de cette vie. Je ne veux plus me balader en haillons. C'est terminé tout ça, c'est fini. Et ces oripeaux de misère, eh bien, c'est ce qu'on appelle le mal. C'est ce qu'on appelle le péché. On parlera du mensonge, on parlera de la jalousie, on parlera de la haine, on parlera de l'orgueil, on parlera de l'égoïsme, on parlera peut-être de cette tendance à véritablement confondre les choses, la magie, l'astrologie, toutes sortes de choses, et jusqu'au mauvais caractère. Parce que vous savez, les gens qui ont mauvais caractère, ils disent « c'est vous qui avez mon caractère, moi j'ai un bon caractère ». Alors ça c'est difficile, hein. C'est comme ça. Hein. Voilà, c'est terrible. Dieu nous offre ce nouvel habit. Est-ce que nous voulons, naturellement, la question, est-ce que nous voulons changer de cet habit? Est-ce que nous voulons prendre fait et cause pour ce que Dieu nous donne? Si oui, une vie nouvelle commence, avec des perspectives éternelles. C'est pas une soirée dans une salle de noces pendant quelques heures. Hey, vous n'en êtes pas sorti, hein? C'est éternel, c'est à jamais si vous avez compris ce que ça veut dire. Et sinon, eh bien, le verset 13 nous le dit. Alors le roi dit aux serviteurs, en parlant de cet homme et en laissant tous les autres qui avaient satisfait la volonté du roi de la noce, il lui dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, qui expriment à la fois les pleurs et les grincements de dents, la tristesse et puis la rage, finalement, d'avoir passé à quelque chose, à côté de quelque chose qui est formidable et merveilleux. Le royaume des cieux sera un lieu où il n'y aura que des êtres pardonnés, changés, transformés, et c'est pour ça qu'il nous est dit dans le livre d'Apocalypse, que Dieu va nous préparer une robe blanche. Si vous aimez le rose, il faudra vous arranger avec le Seigneur. Mais bon, en tous les cas, ça sera blanc. Image de la sainteté, de la pureté, de la justification qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Ouais. Et une robe qui sera sans tache. Parce qu'imaginez-vous, ça nous arrive de faire des taches. Hein. Quelquefois, on tourne la salade ou on épluche une tomate, et puis, pom, 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 voilà. Hein. Les autres s'excluront d'eux-mêmes par défaut d'avoir voulu être purifiés et lavés. La conclusion est la suivante, c'est que Dieu nous invite. Voilà. Parce que tout est fixé sur l'invitation. Ça, c'est la première chose. Et il nous offre la transformation indispensable pour pénétrer dans la salle des noces, dans son royaume, le royaume des cieux, et à nous de choisir, parce que c'est une nouvelle vie. Alors, Dieu nous donne ce dernier appel, quand il est dit ceci dans Hébreux, chapitre 2, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » Dieu appelle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ici ou là, quelles que soient peut-être les circonstances de notre vie, mais Dieu appelle tous les hommes, j'en suis convaincu, d'une façon ou d'une autre. Alors, de rester attachés, il nous est dit, aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, parce qu'il y en a des vents, hein, dans ce monde. Et des vents qui peuvent nous distraire, qui peuvent nous contrarier, qui peuvent nous emmener, mais alors loin, finalement, de l'essentiel de la vie, c'est d'être sauvé. Car si la parole, et je poursuis ce texte, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ouais. Comment pouvons-nous faire? Puisque tout nous a été donné. Et il n'y a rien de pire encore quand on a payé quelque chose. Et que se dit, je suis pas content, alors remboursez-moi. C'est une chose, on a payé. C'est une relation, là, commerciale, entre un vendeur et puis un acheteur. On n'est pas content, alors à ce moment-là, eh bien, on va traiter le problème. Mais là, quand c'est donné, et qu'on refuse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Il ne peut rien faire. Alors j'accepte ou je n'accepte pas. Et il arrive un temps où l'homme ne pourra plus trouver d'excuses devant Dieu. Parce qu'on pourra lui dire, j'ai un champ à les cultiver. Il faut que j'aille au bureau. J'ai des affaires en bourse. J'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. Ce ne sont qu'excuses et prétextes qui ne tiendront pas, puisque finalement, bien Dieu nous donne tout pour que nous puissions être sauvés. Alors, il nous attend. Ouais. Il use de patience envers chacun, dans l'attente que nous parvenions à la repentance et que nous acceptions son salut. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. En tous les cas, c'est merveilleux d'être invité aux noces du roi des rois et du roi des cieux, parce que c'est pas une chose, finalement, comme nous les connaissons sur la terre. C'est beaucoup plus beau, merveilleux, et y a-t-il un mot qui puisse qualifier, eh bien, cette invitation? Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants. Merci beaucoup à tous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci parce que ce sont les belles histoires qu'il y a dans la Bible. Elles sont simples à comprendre. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tous ceux qui ont entendu ta parole, tous ceux qui vont l'entendre encore, eh bien, sous cette forme ou sur une autre, peu importe, Seigneur, ce qui est important, c'est que nous puissions avoir été touchés, Seigneur, non pas parce que un homme a parlé, parce qu'il a dit des choses, parce qu'il a fait, Seigneur, eh bien là, un discours. C'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que sur ta parole, le Saint-Esprit, Seigneur, agisse au plus profond de nous-mêmes et nous montre, Père éternel, tout ce qu'il peut y avoir de vanité dans une existence qui a perdu son sens et son but, sa finalité, son objectif, parce que nous voulons croire, Père éternel, que tout nous dit et tout nous parle, Père éternel, que sans Dieu, les hommes ne peuvent être heureux, ne peuvent connaître le bonheur. Et Seigneur, si tu nous présentes ton royaume, celui, Seigneur, eh bien là, en effet, que tu as préparé par Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné pour le salut de l'humanité, c'est bien pour nous montrer, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre salut, qu'il n'y a pas d'autre nom, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, et puis que pour nous, il n'y a rien à faire et rien à payer, puisque tout est gratuit, que nous n'avons qu'une chose à faire, une chose à dire. Mais oui, Seigneur, j'accepte, parce que c'est véritablement, Seigneur, toi qui t'adresses, en effet, Seigneur, à chacun et à chacune, pour nous donner, Seigneur, ce salut éternel dans la personne de Jésus, que nous recevons par grâce et que nous saisissons par la foi. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.